Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Avec Olivier Royer pour un nouveau compte-rendu de mandat radiophonique, la région Auvergne-Rhône-Alpes, chez nous, sur cette antenne, 107.5, 101.7, rdiwa.fr également. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était quoi cette fois ? L'Assemblée ?
Alors, cette fois en décembre, parce que j'ai un peu pris de retard pour venir faire ce compte-rendu. C'est une assemblée plénière les 16 et 17 décembre, et puis une commission en visio qui a eu lieu également début février. L'assemblée était une nouvelle fois en visio aussi. Là, à partir de cette semaine, on retourne au conseil régional en présentiel, comme on dit maintenant.
Et raconte-nous justement comment ça se passe quand c'est en visio, qu'on veut prendre la parole, au bout de deux minutes on se fait couper le micro.
Alors au bout de deux minutes on se fait couper le micro, mais ça c'est la règle générale qui est plutôt très bien suivie et scrupuleusement suivie quand c'est les écologistes qui parlent, un peu moins quand c'est d'autres, bizarrement. En visio, ce qui est étonnant, enfin, en tout cas, ce qui nous a étonnés là sur cette session, c'est qu'on n'était pas tous dans la même salle virtuelle. Il y avait l'opposition d'un côté et les élus de la majorité de l'autre. Donc, ça faisait très, très bizarre.
Tu ne pouvais pas voir la tête des élus de
non,
la majorité,
non,
par exemple.
Et puis, il y a eu un bug technique et on se demandait vraiment s'ils ne nous avaient pas oubliés et s'ils n'étaient pas en train de faire tranquille leur session. Ouais, très, très bizarre.
Ils ont fermé la porte de
ouais,
votre salle.
Et... Ouais, c'était bon, bref, ça s'est réglé, mais ouais, c'était quand même étonnant que l'assemblée soit pas coupée, par exemple. J'imagine qu'il y avait une raison technique, mais ils auraient pu couper les deux sessions par ordre alphabétique. Ça aurait moins fait bizarre que toute l'opposition d'un côté et puis les élus de la majorité de l'autre.
Oui, d'autant que vous n'êtes pas le même nombre.
Ah bah non.
Donc ça fait une toute petite salle et une très grosse.
Ouais, toute petite quand même. Ouais, ça fait une salle où la majorité, c'est un peu plus de 150 personnes. Et l'opposition, une cinquantaine. Donc voilà.
Qu'avez-vous abordé comme sujet sur cette assemblée plénière, justement ?
Et
que tu voudrais nous mettre en avant ?
Ouais, l'assemblée plénière, déjà... Comme c'était la dernière de l'année, celle de décembre, on était plutôt sur les questions de budget. C'était le budget primitif 2022. C'était l'évaluation du SRADET, donc encore un acronyme assez terrible, mais qui recoupe quelque chose d'important, le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires. On a parlé également de restauration lycéenne, de la relocalisation de l'économie et puis des différentes actions de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc c'était le premier budget du second mandat de Laurent Wauquiez. Et on avait l'impression que c'était un peu le budget de, je sais pas, Georges Pompidou, né à Montboutif dans le Cantal. C'était vraiment très, très... C'était saut 70, on peut dire. Voilà.
Comment ça ?
Pas mal de subventions sur les routes qui ne sont pas forcément dans le giron de la région. Un maintien sous perfusion de l'avion, avec à grand renfort de publicité, la réouverture du Clermont-Paris. De l'aide aux lycées privés quand les lycées publics se délabrent, des cadeaux aux chasseurs, mais bon, c'est normal, puisque Laurent Wauquiez fait de l'écologie positive et que les chasseurs sont les premiers écologistes de France. Bon, en tout cas, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y avait quand même une part de 21e siècle dans ce budget, mais malheureusement, c'était sous forme de caméras de vidéosurveillance et de canons à neige. Donc voilà, c'est le 21e siècle, mais peut-être pas celui dont on aurait besoin pour les années qui viennent.
Et on pourrait presque faire le parallèle avec les budgets d'avant. Il n'y a pas grand-chose qui change ou de nouveau. Là, tu nous parlais d'égalité homme-femme, etc. Qu'est-ce qu'ils ont proposé ? Ça aurait pu être novateur.
Bah, en fait, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de postures dans ce que fait la majorité. Que quand l'opposition a des idées qui sur lesquelles ils pourraient venir voter, ils ne votent pas nos amendements, mais il n'est pas rare, et on l'a vu sur une session précédente, que par exemple, un vœu ou un amendement qu'on fasse, là c'était sur le soutien aux filières des infirmières, soit rejeté et que le lendemain, le président se permette de faire une vidéo sur les mêmes sujets en disant « Regardez la bonne idée que j'ai eue ». Voilà. Et là, ça a été un peu pareil, quoi. On avait 2 jours de session, on a posé 47 amendements qui permettaient en tout cas de réorienter 140 millions d'euros pour engager la transition écolo dès 2022, 60 millions d'euros pour répondre à l'urgence sociale. Et en fait, il n'y a aucun amendement de nos amendements qui a été accepté. Il y a un seul amendement de l'opposition, en grande partie vidé de sa substance, qui a été adopté sur les 129 déposés en tout. Et donc, et en plus, de manière très étonnante, alors bon, ok, on était en visio, mais on a vu le président disparaître pendant 6 heures. Sa vice-présidente menait les débats et lui, je sais pas quoi. Le repas a dû durer de 12h30 à 18h30 parce qu'on l'a pas vu, tout ce temps-là, quoi. Ce qui était très pas très.
C'est possible ça normalement ou en dehors du fait que là ce soit en visio?
Oh bah, c'est toujours possible de s'absenter. Il y a des règles de représentation. On a le droit de porter. On a le droit de porter des procurations, on a le droit d'être absent si on est excusé pour une bonne raison. Au bout de trois raisons non excusables, il y a quand même une baisse des indemnités du conseiller ou de la conseillère régionale qui serait en faute par rapport à ce règlement intérieur. Voilà, ce qui est normal.
Alors là, tu nous parlais donc de ces amendements. Alors, est-ce que pour finir, du coup, il y en a qui finissent par être reproposés, mis dans une vidéo par Wauquiez et donc finalement votés et appliqués ?
Cette fois, non. Pas sur la paix, en tout cas. Sur l'Assemblée plénière, pardon. Ça a été le cas auparavant. Mais par contre, on s'est rendu compte que sur une... On avait fait un amendement qui a été vraiment bien travaillé par ma collègue Cécile Michel sur l'opportunité de réouvrir la gare du Teil en Ardèche pour les voyageurs, parce que l'Occitanie désormais développe en fait des trains qui vont, si je me rappelle bien le détail, qui vont jusqu'à Pont-Saint-Esprit. Mais à Pont-Saint-Esprit, il n'y a pas la possibilité de faire des retournements de train, donc ils montent jusqu'au Teil pour pouvoir faire le retournement et puis ils redescendent ensuite. Donc,
Qui n'est qu'une gare de fret, en
non,
fait.
Mais voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, quitte à monter jusqu'au Teil, autant qu'il y ait des voyageurs qui puissent monter et descendre. Et donc, on avait fait vraiment un grand travail, un amendement qui était bien travaillé en termes financiers et autres. Et Laurent Wauquiez a préféré prendre un amendement qui était peu ou prou sur la même thématique, mais qui venait du groupe communiste et insoumis plutôt que du groupe écolo. Un amendement qui était moins bien travaillé, moins poussé, en tout cas qui était moins ambitieux sur la temporalité de la réouverture. Et voilà, encore une fois, on sent clairement que les premiers adversaires de Laurent Wauquiez, en tout cas clairement pour lui, c'est bien le groupe des 28 écolos qui sont élus à la région.
Et vous vous en servez de ça ? Vous faites des coups d'éclat ?
C'est quoi
votre stratégie du coup quand vous êtes que à 28, même 28 finalement ?
Non mais 28 c'est vraiment important.
Oui, ça permet de bien, mais...
28 par rapport à 7.
Mais quand on se rappelle de Corinne Morel-Darleux, oui.
Oui, Corinne était dans un groupe vraiment famélique, on va dire. Les élections de 2015 avaient été terribles. Et là, à 28, ça nous permet de bien partager les dossiers, de pouvoir intervenir sur beaucoup plus d'amendements qui ont été partagés. Là, j'imagine les collègues d'avant porter autant d'amendements à 7, ça devait être l'enfer. Là, le travail est partagé, on peut mieux préparer les commissions, on peut aussi mieux préparer les assemblées plénières. Je rappelle juste qu'il y a des obligations en termes de temporalité pour la présentation des dossiers qui passent en commission ou en AP.
Et vous les donnez à la dernière minute.
C'est toujours à la dernière minute. Et par exemple, pour ce qui est de la prochaine session, on est en commission jeudi qui arrive, là, ce début mars. On a une assemblée plénière la semaine d'après. Et donc, une commission permanente qui sera le vendredi, dans 10 jours, qui va voter, alors d'une manière très très rapide, j'imagine encore, l'ensemble des dossiers qui auront été présentés, soit en commission, soit en AP. Et on a reçu ce week-end plus de 1000 pages de dossiers à lire. Alors, c'est pour l'ensemble des commissions. Mais en fait, c'est...
Est-ce que c'est bien présenté au moins ?
On a des services qui travaillent vraiment bien à la région. Il y a une vraie question, par contre, de soutien à ces services. Parce que de plus en plus, on voit que Laurent Wauquiez continue sa politique de réduction.
Alors, tu nous parles des fonctionnaires, là.
Là, je parle des fonctionnaires. Ouais, bah, ouais. Oui, les services.
Les services,
d'accord. Les techniciens présentent bien les dossiers, travaillent pourtant dans des conditions vraiment difficiles et avec des moyens de fonctionnement qui sont vraiment rabotés et pas dignes d'une région qui se dit la mieux gérée de France, quoi. Il y a un moment... Il faut reconnaître le travail des techniciens. Il faut pouvoir les soutenir, renforcer certains postes. Et là, depuis le premier mandat de Laurent Wauquiez, c'est pas le cas. Les moyens qui sont donnés au fonctionnement sont pas dignes de notre assemblée, quoi. Sur les amendements. Si on revient là-dessus, moi, j'ai eu à présenter 3 amendements qui sont en lien avec les commissions dans lesquelles je suis.
Tu nous les rappelles, d'ailleurs, ces commissions ?
Alors, je suis en commission économie, je suis en commission formation professionnelle et en commission transport. Et je suis référent pour le groupe de la commission transport. J'ai défendu un amendement sur l'économie circulaire. Voilà, en lien avec la transition qu'on souhaite. Un amendement sur l'investissement pour le train, pour continuer à avoir des investissements et où notamment j'ai rappelé l'importance des travaux sur les lignes d'avenir, que je me refuse à appeler petites lignes ou voilà, parce que c'est les lignes qui nous permettent au niveau, quand on habite en milieu rural, de pouvoir continuer à avoir une offre de mobilité importante.
Et dont on imagine d'ailleurs que si elles étaient un peu plus développées, on réglerait aussi quelques problèmes qui sont liés, là, par exemple, à l'augmentation des fluides pour les voitures.
Mais effectivement, quoi, tout ça est dans une politique. Nous, quand on propose nos amendements qui sont en lien avec la transition, c'est une politique qui est là pour... Faire des économies aux ménages qui ont les plus faibles revenus en mettant des moyens sur l'isolation des bâtiments. On le voit aujourd'hui que ça va devenir certainement très très prégnant avec les tensions internationales qu'il y a et les tensions qu'il va y avoir sur l'énergie de plus en plus important. Et quand on sait qu'un degré en moins... Dans nos chauffages nous permettrait de se passer d'un tiers du gaz qui vient de Russie, par exemple, c'est quand même quelque chose qui est important. Donc imaginons si on avait une politique comme on l'a proposé dans nos amendements, une politique qui mettait des moyens sur la formation professionnelle, qui mettait des moyens pour rénover beaucoup plus de logements et donc qui serait créatrice d'emplois et qui, à la fin, permettrait de faire des économies d'énergie et donc de moins dépendre des énergies fossiles. On trouve qu'il y a une certaine cohérence et qui est renforcée en plus par les problématiques internationales qu'il y a actuellement.
Et donc, on peut paraître étonné que ce soit même pas entendu, ça, parce que faire de l'emploi ou investir dans le BTP, c'est quelque chose que la région aime bien faire.
Moi je comprends pas la posture, qui consiste pour la majorité de refuser tout amendement parce qu'il vient de l'opposition. Il y a un moment, on est tous élus au service des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ces habitants, il y a différentes réalités, mais ce qu'on sait, c'est qu'on n'est pas dans une région où on va se passer demain de chauffage. On a une région Auvergne qui est une région montagneuse. Hein. Il n'y a pas que la partie Rhône-Alpes de la région qui est montagneuse. On a des conditions météo qui nous obligent encore à avoir du chauffage. Et surtout, même si on a de moins en moins de chômeurs officiels, énormément de personnes qui ont des envies de reconversion, énormément de personnes qui veulent venir vivre en dehors des métropoles. Et ça tombe bien, quand on voit juste notre exemple de la vallée de la Drôme, on sait qu'il y a énormément de travail à faire sur la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, joignons tout ça, quoi. Une moindre pression démographique sur les agglomérations, de meilleurs services de transport pour se rendre justement dans les villes où il y a quand même un certain nombre de services publics qui nous ont été enlevés. Et nous, c'est ce qu'on dit un peu. Pourquoi nous, habitants des zones rurales à qui on enlève des services publics les uns après les autres, la trésorerie en est l'exemple pour le dernier départ en date. Pourquoi on n'aurait pas un prix du ticket de transport jusqu'à Valence qui soit équivalent au transport de bus qu'il y a dans l'agglo? Parce qu'en fait, vous nous enlevez les services, mais maintenant on est obligé de se déplacer jusqu'à l'agglo, donc qu'on paye un prix comme tous les autres habitants de l'agglo pour se rendre dans ces services. Il y a déjà le temps en plus qu'on aura à passer. Si en plus ça nous coûte plus d'argent, c'est vraiment pas correct, quoi. Voilà. Et ces rénovations de lignes d'avenir, la mise en place de cadencement sur des lignes TER avec du report modal ou des navettes qui viennent vers la ligne de chemin de fer. Et ça, c'est quelque chose qui est partagé avec la majorité. Le vice-président Frédéric Aguilera nous a dit dans cette vallée, on voit bien qu'il y a une épine dorsale, c'est le train. Et donc, on est d'accord pour travailler sur des éléments de report, en tout cas de...
Une distribution un peu en étoile au départ de ces gares.
C'est ça, on départ. Et surtout, pour pouvoir amener les gens à se déplacer en train, ce qui est quand même beaucoup plus agréable qu'en bus.
Et
on a un travail, il y a un travail qui est fait par les associations actuellement.
Concrètement, c'est de la réouverture de gare, nouveau maillage, on sait à quand il arrive, quelque chose comme ça.
En fait, c'est ça. Quand on parle de cadencement, ça veut dire qu'on n'aurait pratiquement plus besoin d'avoir des fiches horaires. On sait que chaque 13h15, 14h15, 15h15, ou alors 13h15, 15h15, 17h15, on sait qu'à chaque horaire,
il y aurait
10
trains et on les connaît.
Voilà. Et on les connaît, on sait à quelle heure ils passent, ils ne sont pas décalés. Ça permet vraiment de pouvoir se projeter. De se projeter facilement. Oui, peut-être réouvrir des gares intermédiaires, parce qu'aujourd'hui, entre Saillant et Die, il y a des gares qui peuvent être réouvertes.
Entre Die et Luc aussi.
Voilà, et entre Die et Luc, mais en fait, sur l'ensemble de cette ligne, il y a des gares qui peuvent être réouvertes, qui peuvent être des simples haltes ferroviaires pour pouvoir prendre et déposer des personnes. Mais surtout, même à niveau constant de matériel utilisé, il y a quand même eu en novembre la présentation par Dromolib et par Bernard Collignon, qui fait partie de la RDSL, d'un schéma qui utiliserait, en tout cas dans un premier temps, le matériel existant pour rajouter des allers-retours en TER sur cette ligne. Et là, on a des spécialistes qui connaissent très bien comment marchent les différents matériels, comment on peut faire, où est-ce qu'on peut faire croiser des trains. Et ça, on espère vraiment que la région va prendre en compte ce travail pour, alors peut-être pas sur la programmation qui est la nouvelle programmation de décembre 2022, ça sera peut-être un peu trop tôt. La SNCF a besoin de vraiment beaucoup de temps pour changer ses horaires. Mais déjà, si on avait un objectif pour décembre 2023 d'avoir ces cadencements-là, ça changerait la vie des habitants. Avec une demande complémentaire, c'est au moins d'avoir un dernier train qui puisse partir un tout petit peu plus tard de Valence. Aujourd'hui, le dernier train, il part à 20h. Et on a un TGV qui arrive à 20h11 de Paris et de Lyon. Donc, pour ceux qui travaillent dans ces deux grandes agglomérations, ça fait un peu bizarre de louper sa correspondance à moins de 10 minutes. Et puis, moi, c'est ce que j'ai défendu. C'est si on pouvait avoir un train du soir, puisque de toute façon, avant 23h, on n'a plus de trains qui descendent de des Hautes-Alpes, puisque c'est le train de nuit qui passe vers 23h15, je dirais, à 10. Donc, on aurait largement la possibilité de faire remonter un train avant 23h15 pour que, justement, on puisse aussi faire des sorties culturelles, rentrer, en fait, plus tard de l'agglomération, là où il y a un certain nombre de services et d'espaces de loisirs qui ne nous sont pas accessibles si on n'a pas de voiture.
Et on peut aussi imaginer, du coup, avec ce nouveau maillage, que des lignes type la ligne 28 qui a été découpée en deux, peut-être tu vas nous en parler, n'existent plus.
Oui, si le service est... Il faut juste qu'il n'y ait pas de dégradation de service. L'intérêt de la ligne 28, c'est de pouvoir prendre un transport au pied de chez soi, ou en tout cas pas très loin de chez soi.
Oui, mais on est d'accord. Prenons un exemple, je ne sais pas, les gens, ils passaient à Ponté, passaient à Étoile, ils passaient... Et si maintenant, il y a un petit bus qui fait la jonction avec la gare la plus proche, Gershoni, par exemple, on règle ça.
Pour moi, c'est
la bonne solution. Donc, ça veut dire le même nombre de petites navettes qui vont venir circuler en fonction du nombre de trains qui...
On aurait moins de gros bus, on aurait moins de gros bus, on aurait peut-être des navettes plus petites pour rapatrier vers les trains, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas suffisamment de trains, donc il faut vraiment qu'il y ait un cadencement et donc une augmentation du nombre de trains pour que tout ça soit opérationnel et qu'il n'y ait pas de dégradation de service. Il faut penser aussi au prix. On a une partie de nos habitants qui prennent la ligne 28 parce qu'elle est moins chère que la ligne de TER. Et ça revient à la proposition que je faisais. Payons le prix des transports dans l'agglo.
Après, le TER, c'est plus employé, il serait moins cher s'il était plein tout le temps.
Enfin, on pourrait dire, non ouais, ouais, bah, oui, oui. C'est, disons que dans une logique, oui.
Pardon.
Mais je ne sais pas si c'est la logique qui est en cours. Non, ce qu'il y aurait aussi d'intéressant, c'est qu'il faut voir que avec des navettes de ce type-là, on pourrait peut-être aussi imaginer une meilleure utilisation des véhicules disponibles sur le territoire pour faire une partie de transport scolaire qui ne sont pas aujourd'hui, faits. On a des villages, par exemple, de la vallée de Quin, qui ont écrit à la région là, pour demander pourquoi eux n'avaient pas le droit à du transport scolaire, alors que le village d'à côté y avait droit. On a aussi peut-être des possibilités d'utiliser ces navettes pour rapatrier vers la ville-centre des personnes âgées qui ont besoin de faire des courses, d'aller chez le médecin ou autre. Et on sait aujourd'hui que le fait que la maison médicale soit excentrée, ça pose des problèmes même à des habitants qui habitent un peu plus loin du centre-ville et qui sont aujourd'hui obligés d'être motorisés pour aller voir leur médecin. Donc je pense qu'on a assez de force de collectif, de personnes qui travaillent sur ces questions, si on a un interlocuteur de qualité, compréhensif et qui veut bien travailler avec les habitants, on arrivera à trouver quelque chose d'intéressant avec la région en mixant les TER, les navettes de rapatriement vers les gares, les transports d'utilité sociale que peuvent développer l'espace social, la vallée de la Roanne, par exemple. Donc on a tout à gagner à maintenir un dialogue de qualité et essayer de voir, avec les moyens qui sont donnés, d'avoir de meilleurs, un meilleur service pour les habitants.
On va suivre ça puisque c'est décembre 2023. Ouh là là.
Alors, moi, je disais ça. Peut-être que c'est décembre 2022 qui serait possible. Mais il faut juste se rappeler que les grilles qui seront présentées en décembre 2022, elles sont en train d'être finalisées là, avant la fin du mois d'avril, par les autorités qu'on charge cette question-là. Et se rappeler aussi la difficulté supplémentaire qu'on a quand même dans la vallée de la Drôme, c'est que ce n'est pas la région Auvergne-Rhône-Alpes qui propose les horaires, c'est la région PACA, puisque la ligne est une ligne interrégionale qui est gérée par la région Sud.
Voilà. Petite facilité supplémentaire.
Toute petite facilité, effectivement. Voilà. Et sinon, y a aussi le troisième amendement que j'ai présenté était sur la question de la transformation durable de la filière plastique. On a 900 entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes qui travaillent sur cette question-là. Des entreprises qui sont très innovantes, qui sont développées même dans des régions plutôt rurales.
Dans l'Ain, par exemple.
Ouais. Dans l'Ain, en Haute-Loire, où on a vraiment des procédés intéressants qui essayent d'aller chercher les ressources dans les déchets, ou dans des matières de recyclage ou organique, même si il faut bien faire attention dans ce cas-là quand on utilise par exemple de l'amidon pour faire de l'emballage plastique, que nos productions agricoles qui servent à faire du biocarburant ou ce genre de produits viennent pas justement manger des terres dont on aurait besoin demain pour manger. Parce que ça va être aussi une nouvelle.
On sait que c'est le cas.
On sait que c'est le cas. On sait que c'est le cas, effectivement. Et en tout cas, on a vraiment essayé d'avoir des amendements qui permettaient d'aller, prendre des moyens sur certaines lignes qui ne nous semblaient pas adéquates. Il y a beaucoup de lignes sur.
Pardon. Quand on parlait de train, justement.
Ouais, c'est ça, ouais. De lignes de budget. Il y a beaucoup de lignes de budget sur la sécurité, beaucoup sur les routes. Et ça, c'est pas. Notamment le gros projet RN88, de gros travaux pour, bizarrement, connecter le Puy-en-Velay avec Saint-Étienne et puis plus loin Lyon et autres. C'est étonnant. On avait mis en lumière pendant la campagne.
Il aime bien faire des routes, Wauquiez, en fait.
Et puis les investissements en Haute-Loire, on peut comprendre que dans les régions rurales aient besoin de plus d'investissements. On n'est pas les derniers à le constater. Mais c'est vrai que la Haute-Loire est très, très favorisée, on va dire, pour ne pas dire plus, par rapport à d'autres parties de la région qui sont tout autant rurales. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de réfléchir en posant des amendements sur le soutien à l'économie sociale et solidaire, à la filière vélo, à la désartificialisation et à la désimperméabilisation des sols. Ça, c'est quelque chose qui nous semble important. Il y a eu pas mal de choses aussi où on a ciblé les investissements dans les lycées, parce qu'on se rend compte que quand un établissement d'enseignement ou de formation pose un dossier pour financer du matériel pédagogique, par exemple, et un dossier pour financer du matériel de sécurité, une porte, un renforcement des contrôles et tout, ces dossiers-là passent beaucoup plus facilement. Ces seconds dossiers passent beaucoup plus facilement. Il y a un moment, Il faut peut-être remettre l'église au centre du village et dans les... Et dans les établissements de formation, on a quand même besoin de fonds pour la pédagogie et peut-être moins pour des portiques, enfin voilà, et des caméras. Et puis,
est-ce qu'on a le droit de monter un dossier portique puis finalement de l'utiliser pour faire autre chose ?
Je crois que non. Je crois que ça serait pas très correct. Et ou alors on se ferait vraiment taper sur les doigts. Il y a quand même certaines règles dans les marchés publics, monsieur. non, et puis beaucoup de choses sur en lien avec la transition énergétique, écolo, la question de la réduction de la publicité, parce que aujourd'hui, même à l'entrée de Die, là entre Die et la déchetterie, j'ai vu qu'il y avait un panneau lumineux qui s'était installé. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces histoires, quoi ? Enfin, pourquoi on va mettre de l'affichage numérique qui bouffe de l'énergie, la réhabilitation thermique qui est importante. Et donc, il faut vraiment aider à ce que les filières se développent. Et puis, après ces 2 ans de crise due au Covid, et je pense qu'ils ne vont pas être finis dû à d'autres facteurs, un fonds de revitalisation pour les secteurs culturels qu'on a défendu parce que les secteurs sont sinistrés et que il y a eu des aides pour le maintien des fonds qui aident notamment les intermittents, des années blanches et autres. Mais bon, là il y a un moment, on le voit, hein, et dans les discussions qu'on peut avoir avec les personnes qui gèrent le théâtre, avec le cinéma, on n'est pas encore revenu à des jauges et à de la fréquentation qui est supportable et en tout cas qui est assez pour pouvoir tenir dans le temps. Donc il faut vraiment faire quelque chose là-dessus, comme pour les clubs sportifs qui ont vu aussi leurs adhérents chuter d'une manière très importante. Et alors là c'est quand même assez hallucinant, c'est que on a une région qui a soutenu les clubs sportifs. On a une région qui se dit la mieux gérée de France et portant un message d'écologie positive. Et en fait, on a, dans cette assemblée plénière et dans le budget, eu à voter 7,8 millions en investissement pour l'achat de minibus pour les clubs sportifs. Il y a quand même eu 21 millions au total qui ont été dépensés sur ces achats de minibus, qui ont quand même eu plusieurs fonctions, d'après moi. D'une part, ça permet à avoir des véhicules de partout qui sont logotés par la région. Et puis, comme les notifications sont arrivées juste avant les élections régionales, je pense que c'était une bonne façon de rappeler qu'il était important de voter aux élections régionales.
Mais donc, du coup, il y a des minibus, mais il n'y a pas de licenciés à mettre dedans
pour... c'est un peu le problème. Et c'est pour ça que nous, on a posé un amendement dans ce sens-là, en disant peut-être des priorités.
Alors, prenons justement cet amendement-là, celui que tu citais juste avant également, où on se dit, bon, l'aide à la culture, enfin, comment c'est perçu ? Alors, évidemment, ils sont retoqués, mais quel est leur point de vue, du coup, sur ces deux phénomènes qui sont problématiques, quoi ?
Mais il n'y a pas de réponse qu'on s'est retoqué. On a 2 minutes pour parler.
Voilà, on ne s'est jamais justifié.
D'une manière très, très partielle ou pas du tout. En disant, c'est souvent une parole de la première vice-présidente, puisque Laurent Wauquiez n'est pas là, qui dit « Je propose le rejet de cet amendement ». Et hop, on passe au vote.
C'est toujours une opposition principielle, du coup. C'est parce que c'est vous qui le proposez.
Nous, c'est comme ça qu'on le ressent. Le reste de l'opposition également. Il y a un traitement de défaveur envers les écolos, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un traitement de faveur envers les autres. Bon, en tout cas, c'est pas le cas. Et puis, quand c'est retoqué, c'est souvent, sans justification, ils disent non, mais là-dessus, on intervient déjà, donc c'est bon. Donc retoqué. Non, mais là-dessus, on a suffisamment de choses. Retoqué. Quand c'est Laurent Wauquiez qui préside, il y a plus souvent d'explications de retoquage parce qu'il se permet d'avoir des réponses un peu, un peu pas gentille, on va dire, pour bien enfoncer le clou, quoi. Donc ouais, non, il y a pas forcément d'explication claire, précise et argumentée. Et puis enfin l'argument principal quand même qu'on entend souvent, c'est de la part du président, c'est de dire les élections ont eu lieu, vous voyez bien les résultats, je suis légitime, ce n'est pas votre programme qui a été choisi, donc en fait dont acte et rendez-vous dans 7 ans, quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on sent la vie en assemblée et en commission. Voilà, notre rôle, il a un intérêt dans le lien qu'on fait avec les habitants, avec les collectivités, avec les associations en dehors, le soutien qu'on peut leur apporter, les informations qu'on peut faire remonter auprès des commissions et des vice-présidents, sans être sûr que ça aura une portée. Mais à l'intérieur de l'Assemblée, c'est un cirque médiatique. Voilà, on ne sert à rien, quoi. Voilà, on pose. Ça nous permet de montrer quelle aurait été notre ligne en posant les amendements, mais on sait très bien qu'ils ne vont pas les prendre.
Mais du coup, c'est suivi par qui? Enfin, là, on imagine déjà nos auditrices, auditeurs qui prennent encore un peu conscience de ça, puisqu'on l'avait déjà dit du temps de Corinne Morel-Darleux. Et eux, d'ailleurs, leur groupe avait pris un peu aussi le parti d'aller attaquer au légal un certain nombre de choses qui étaient faites de travers. Est-ce que ça va être aussi une de vos stratégies?
Nous, on continue.
Au pénal, je veux dire, pas au légal.
On fait des recours juridiques, oui, parce que c'est aussi une des armes qui est à la disposition des élus. Parce que quelquefois, contre des votes ou des dossiers qui nous semblent pas dans les clous, il n'y a que les élus qui peuvent déposer et qui sont en capacité de déposer un recours. Donc oui, évidemment qu'on se gêne pas à avoir ce genre de dépôt et de recours. On a d'ailleurs une équipe qui est désormais renforcée, quoi. Notamment au niveau de l'Isère, avec deux collègues qui sont avocats. Une collègue qui portait beaucoup les recours juridiques et qui était déjà élue précédemment, Myriam Laïdouni-Denis, qui a permis justement d'avoir pour conséquence. Ces recours ont eu pour conséquence de voir retoquer le budget de la région, quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est pas négligeable, quoi. Voilà,
C'est bien géré, mais avec un budget faux, quoi. Pas bon.
Ouais. c'est vraiment dommage de ne pas se servir de l'ensemble des propositions que peuvent faire les uns et les autres quand elles vont dans le bon sens et dans l'intérêt commun, quoi. C'est une façon de faire de la politique qui est pas que j'entends pas. Parce qu'on n'est pas
et
là
par ailleurs,
juste pour
ça
être
leur retire...
en opposition. Quoi.
Oui, et puis ouais. Par ailleurs, ça ne leur retirerait pas forcément la gloire de l'avoir mis en place.
Non, parce que de toute façon, ça serait... C'est la région qui le ferait. Et franchement,
Il y aurait des Legos en plus.
C'est sûr, parce que tu vois, quand on propose, par exemple, de réduire les inégalités territoriales d'accès à l'IVG, d'augmenter les fonds pour une aide alimentaire de qualité pour les plus précaires, de mettre en avant, afin d'aider aussi sur les énergies renouvelables, comme j'en ai parlé, mais aussi la filière de rétrofit, par exemple, qui va permettre, dans les années qui viennent, peut-être de répondre à cette préoccupation qu'ont pas mal de personnes qui, aujourd'hui, ont des véhicules thermiques et qui vont se retrouver à être interdits de rouler, notamment dans les zones à faible émission qu'il y a dans les agglomérations, et qui voient leur budget baisser parce que l'énergie augmente, parce que l'alimentation augmente, parce que les prix des loyers augmentent, et qui se disent « mais comment je vais faire, quoi ? Comment je vais faire ?» Et aujourd'hui, enlever le moteur thermique de sa voiture et le remplacer par un moteur électrique, c'est possible. Il y a une filière qui est en train de se développer. Nous, on proposait qu'elle
même
se développe.
Même sur des deux chevaux, j'ai vu.
Ah ben oui. C'est sûr, c'est la première voiture qui est validée.
C'est ça, c'est
validée.
Parti là. Ouais.
Ouais,
ah,
oui. en véhicule personnel. Sinon, il y a beaucoup d'agglomérations où justement il y avait une pollution importante due aux véhicules diesel qui ont fait des arrêtés pour que, bah, en fait, tous les trafics et autres, enfin, tous ces petits...
Ouais, c'est les pastilles, critères, etc. Par exemple, sur Grenoble.
Ouais. Ouais, bah, mais surtout que c'est des véhicules qui commençaient à avoir de l'âge, qui étaient diesel, on puisse enlever les moteurs et puisse remplacer par des moteurs électriques, puisqu'ils ne font jamais plus d'une centaine de kilomètres dans la journée en intra-agglo. Et puis, en plus, ça permet une seconde vie aux batteries des véhicules autres, type Zoé, qui arrivent dont la capacité a baissé. Voilà, plutôt que d'être au top, la batterie à 100%, elle est à 80%. Là, Renault s'est engagée à changer les batteries pour les propriétaires, mais elle récupère ses batteries et elle les met dans des véhicules utilitaires. Et il y en a pour encore des années et des années à pouvoir les utiliser, quoi. Donc, voilà. Et ces choses-là, moi... Que ce soit refusé alors qu'on avait bien spécifié où est-ce qu'on pouvait prendre les moyens tels qu'ils étaient inscrits par la majorité, ça, voilà, c'est dommage que ça n'ait pas été le cas, quoi.
Il nous reste une dizaine de minutes, Olivier. Ouais. Est-ce qu'on parle rapidement de cette commission permanente ?
Ah, on peut parler. En fait,
qu'est-ce qu'il y a eu de truculent ?
La commission permanente, j'avais écrit un petit... Je vais te lire ce que j'ai lu, parce que là, c'est bien d'en parler rapidement, parce que la commission permanente qui valide tout ça, la dernière, s'est faite en temps record, 16 minutes pour 137 rapports. Il y a eu des centaines de millions d'euros qui ont été accordés comme ça. Ça fait quand même 7 secondes par vote. Et comme on était en visio... On a fini par se demander si les interventions n'étaient pas enregistrées avant d'être accélérées comme dans les pubs de voitures, quoi. T'imagines 16 minutes pour 137 rapports. 7 secondes par rapport. T'imagines que c'est un lieu de délibération, mais vraiment des plus démocratiques et où il y a un vrai échange d'idées, quoi.
Donc, c'est quand même incroyable.
C'est quand même incroyable, ouais. Et c'est pas filmé, à la différence de l'assemblée plénière. Et j'invite vraiment.
Mais là, ouais. vous pouvez rien dire. C'est les...
Ah bah non. Non, y a ah pas bah de... non, si on dit non.
On dit juste non.
Ouais, voilà. Bah tu fais non. Bah toutes les 7 secondes, quoi. Donc compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contre. Voilà. Bon, bref. C'est dommage que ça soit pas filmé, à la différence de l'AP, comme j'allais dire. Je vous invite à vous connecter sur le site de la région lors de la prochaine assemblée plénière qui aura lieu donc jeudi.
Elles sont aussi toutes enregistrées. Hein.
On peut aller les revoir, ouais, effectivement. On essaye de minuter, nous. Les endroits où on intervient pour pouvoir aussi mettre en avant les amendements qui nous semblent importants. Aujourd'hui, on a un site internet qui commence à être bien fourni, où on peut retrouver nos différents amendements, nos différentes interventions. Et c'est vraiment un outil informatif pour voir aussi comment on essaye de résister et de proposer des alternatives à la politique de Laurent Wauquiez. Donc voilà, ouais, ça a vraiment été très très étonnant cette CP avec 250 000 euros pour le contournement sud-ouest de Romans voté, 415 000 euros pour un carrefour giratoire dans l'Allier, une politique de sécurité hallucinante avec l'achat de caméras. Il y a eu quand même 3 millions d'euros dépensés pour 127 opérations, 920 caméras, dont des caméras dans des endroits où on s'est demandé s'il y avait un réel intérêt.
Par 30,
38 caméras à Arbon, dans l'Ain, donc 3 392 habitants, vous voyez. moins d'habitants qu'à 10, 38 caméras, donc une caméra pour 89 habitants, c'est quand même pas mal. Voilà. 52 caméras à Charvieux-Chavagneux, ça, on imagine bien que, vu leur maire, l'insécurité est dans le premier de leur préoccupation. Et donc, ouais, vraiment très étonnant. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? Ah oui, et puis ces aides aux entreprises sans contrepartie ni condition. Comme le rappelait Fabienne Grébert, la coprésidente de notre groupe, on a quand même encore eu une fois une aide de 550 000 euros d'aide directe pour développer le site de Dynastar à Sallanches. Dynastar qui fait partie du groupe Rossignol, qui est chroniquement déficitaire.
Qui fait des skis,
oui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai. Et après avoir touché les aides de l'État pendant le Covid, Dynastar a quand même pris le parti de supprimer des emplois au printemps dernier pour continuer à délocaliser en Espagne. Et en fait, il n'y a pas de contrepartie. Et ça vient vraiment en exergue et on voit quelles sont les priorités de cet exécutif. Alors que quand on parle de financement de la formation professionnelle et que quelqu'un qui rentrerait dans une formation de la région et qui n'irait pas jusqu'au bout pourrait se voir interdit d'entrer dans une formation financée par la région pour 3 ans. Là, on parle de 550 000 euros de gens qui délocalisent derrière et en fait, rien. Rien de coercitif. Donc c'est...
Alors que quelqu'un qui aurait eu de la formation professionnelle, par exemple dans la rénovation de bâtiments, c'est un emploi non délocalisable.
Et ça, c'est là-dessus qu'on intervient souvent. Comme je le disais tout à l'heure, on va avoir besoin dans les années qui viennent d'avoir des personnes qui reviennent habiter nos régions, qui est une meilleure répartition de la population. Ça permet aux écoles d'être irriguées, ça permet à l'économie locale d'être irriguée. Et pour ça, en fait, la transition énergétique et écologique, elle est très, très grandement pourvoyeuse d'emplois, quoi. Donc, on a tout à gagner à financer ça plutôt que des entreprises qui vont délocaliser derrière. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a manifesté cette semaine, enfin qu'on est allé soutenir les salariés de Ferropen qui partaient en bus à 23h à Albertville cette semaine. Ils partaient en bus pour Paris pour aller rencontrer différents décideurs pour essayer de sauver les activités de leur entreprise.
Quelles sont-elles, Ferropen ?
Et Ferropen, ils fabriquent. Ils sont spécialisés dans le silicium, ce qui permet de fabriquer les panneaux solaires, notamment. Et donc, voilà, une filière qu'il faut soutenir, voilà une filière qu'il faut développer, de la même manière qu'on avait un amendement pour soutenir les petites entreprises qui installent des panneaux solaires, puisqu'il y a des aides d'État qui sont tombées ces dernières années, et il faut que la région puisse venir en aide. Sinon, des projets comme 10 watts qu'on a ici peuvent se retrouver en difficulté. Donc, faisons du développement local, quoi. Faisons durable. Des emplois délocalisables, non délocalisables et durables. Voilà, c'est l'avenir. Et puis, il va falloir être de plus en plus résilient. Il va falloir vraiment mettre un coup de projecteur et des aides sur tout ce qui est alimentaire. Et peut-être qu'on aura aussi besoin de développer des formations comme il y a au CFPPA ici à Die, sur des formations qui mettent en avant l'agriculture bio, parce que les intrants, c'est de la chimie, c'est des énergies fossiles, et les énergies fossiles, vu les tensions internationales qu'il y a, ça va forcément être un peu tendu. Et voilà, la guerre que la Russie fait à l'Ukraine aujourd'hui va pas améliorer les choses.
Ce sera le mot de la fin, Olivier Royer.
Et ben, en tout cas, merci pour l'accueil et à beaucoup plus vite, puisque notre AP est dans 15 jours et je ferai ce qu'il faut pour faire un retour plus rapide. Un dernier point, la région devrait rencontrer les collectifs rapidement sur la question de la ligne 28 pour voir où en sont les fort désagrément qu'on peut subir sur...
Depuis qu'elle est coupée en deux.
Voilà, depuis qu'elle est coupée en deux au mois de janvier, depuis le début janvier.
Un entretien à retrouver sur rdiwa.fr, évidemment. Nouveau compte-rendu de mandat radiophonique, donc dans un peu plus de 15 jours, on va dire
ça... Trois semaines.
Mois d'avril.
Ouais, début avril, ça pourrait être pas mal.
À bientôt et belle journée.
Ouais, je te remercie. Salut.